plus que quelques dizaines de secondes avant de se retrouver. Mardi 28 avril 2020, donc c'est bien aujourd'hui, il est 18h30, c'est l'heure de notre rendez-vous lecture. Merci d'être passé me voir pour ce 6e Facebook Live Exilium. Je suis toujours très heureux de vous retrouver, c'est toujours également une part de stress de ma part, hein, parce que je n'arrive pas comme ça les mains nues, il y a une préparation avant qui doit se faire. Hein. Depuis le matin, je m'y attelle, ce n'est pas toujours simple. Et justement, durant la préparation du chapitre 5 que je vais vous lire aujourd'hui, j'ai été quelque peu tiraillé. Parce qu'en fait, contrairement aux autres chapitres où il y avait en quelque sorte un décalage parfois par tranche horaire, dans ce chapitre 5, on a une continuité. Alors j'avais le choix entre vous lire l'intégralité du chapitre 5 et je vous menais jusqu'à minimum 19h30, mais bon, vous n'avez pas que ça à faire non plus, hein. Ou alors me débrouiller pour couper l'action en deux, ça fait un peu mal, mais je coupe l'action en deux et on se retrouve demain pour la suite de l'action. Alors j'ai choisi cette deuxième option, ça pourrait paraître un peu crève-cœur, mais de toute façon rien n'est perdu puisque l'intégralité du chapitre sera lue au final. Donc ce chapitre 5 aujourd'hui vous permettra d'être libéré certainement pas plus tard que 19h. Alors ça fait le 6e jour que je dis ça et 6e jour je vous libère après 19h. J'en suis désolé, et si vous m'en voulez terriblement, laissez-moi un petit message, et j'essaierai de rectifier ça pour les jours suivants. Alors, je rappelle, bien entendu, que toutes les lectures sont disponibles en replay. Depuis la première, on est en replay, et ces replays seront mis à disposition de façon permanente, et ceci gratuitement. Voilà, donc sentez-vous libre de réécouter l'histoire à tout moment. Et si vous n'avez pas le temps un soir de m'écouter, simplement, comme c'est Marie-Madeleine, je crois, qui m'a dit que le petit déjeuner au matin, hop, un petit coup d'exilium de la veille. Bon, c'est l'heure de la lecture. Alors, comme d'hab, on ferme les yeux pour bien profiter de l'ambiance, on ouvre ses oreilles, on s'installe confortablement. Et moi, la même routine, les lunettes. Et on commence par le résumé de la lecture précédente. Et c'est parti! Résumé de la lecture précédente. Après une première nuit agitée, durant laquelle Frédéric a dû rassurer les jeunes internes sur la sécurité du bâtiment, il retrouve le mardi matin Lewis, qui l'attendait devant le lycée, et l'invite à partager son petit déjeuner. Lewis est convaincu que le proviseur s'est déjà entretenu avec Frédéric sur un sujet bien particulier sur lequel il ne peut toutefois pas s'étendre. Alors le quiproquo s'amplifie quand Lewis, après avoir annoncé être amoureux d'une certaine Sandra, réagit violemment au discours pourtant encourageant de Frédéric sur les vertus de l'amour. Lewis comprend alors que Frédéric n'est finalement pas encore au courant de certaines choses. Complètement désarmé, Frédéric va retrouver le proviseur dans son bureau avant de repartir chez lui pour obtenir des explications sur toutes ces cachotteries qui ont peut-être un lien finalement avec la santé de certains élèves, en particulier Kevin. Mais le proviseur est évasif. Il lui promet toutefois des réponses le lendemain, l'avertissant que les réponses vont profondément changer sa façon de voir certains élèves. Avant de repartir, Frédéric épie une énigmatique conversation téléphonique du proviseur. Frédéric et certains élèves semblent impliqués dans une histoire incompréhensible qu'un certain abbé d'Allemagne pourrait aider à démêler. Cet abbé est attendu au plus tôt à l'abbaye de Noirlac, située dans la campagne de Saint-Amand-Montrond. Frédéric est alors pris d'une crise d'angoisse qu'il parvient malgré tout à maîtriser assez rapidement. Chapitre 5. Mercredi après-midi. 17h15. Tout au long du chemin balisé qui reliait mon chez-moi du lycée, je me préparais mentalement à cette chasse aux revenants promise aux internes, du moins aux plus jeunes. Je me surpris à anticiper les commentaires amusés des garçons sur le cachet féminin du dortoir des filles, avec ses chambres qui baignaient en permanence dans un nuage aux multiples flagrances. Je visualisais déjà leurs réactions devant les murs tapissés de cartes postales des copines et de posters de torses masculins glabres, musclés, bronzés et reluisants, vissés sous des têtes stériles aux sourires niais. Et ces étagères qui croulaient sous les bibelots à trappe-poussière, encerclés de plantes séchées, sans oublier les draps fleuris utilisés comme séparation pour pallier l'absence de portes devant chaque chambre. Je n'étais guère motivé pour cette chasse au spectre. La furieuse envie d'abréger ma souffrance me donna l'idée de téléphoner à une collègue, quand la circonstance je vis comme une experte en fantômes. Le temps de retrouver son numéro sur mon smartphone, puis de laisser retentir la sonnerie une bonne demi-douzaine de fois, et ma correspondante décrocha. « Allô, Gladys ?»«
Salut Fred, comment va ?»«
Bah bien, je te remercie. Je suppose que t'es aussi enneigé que moi ?»«
Bah par chez moi, ouais, c'est méga blanc, hein. Je passe mes journées devant la télé avec mon homme. J'ai appris par la CPE que par la force des choses, tu avais été réquisitionné pour l'internat. Tu survis au moins ?»
Oui, oui, bah, y a que 7 gars, hein, dont un malade, qui passe son temps à dormir. Mais je ne fais que les nuits, après je rentre à la maison. Puis en plus, mes repas sont offerts, donc ma semaine est presque plus intéressante qu'une vraie semaine de boulot, même si on est toujours mieux à dormir chez soi. Bah, je suis désolé, hein, que ça se passe comme ça. On est tous méga bloqués chez nous. Te bile pas, Gladys, tout va bien. On se retrouve la semaine prochaine si la tempête s'est bien arrêtée. Mais en fait, c'est pas pour ça que je t'appelle. La nuit dernière a été un peu bizarre à l'internat. Les gamins ont dit avoir entendu des bruits dans le dortoir et ils sont pas vraiment tranquilles. Alors, je pense que c'est le froid, hein, qui est à l'origine de tout ça, mais je reconnais ça fait un peu flipper. Tout à l'heure, avec les internes, on part à la chasse aux fantômes dans le dortoir des filles, pour les rassurer un peu. Eh ben, ils sont pas de drôles de choses chez les mecs. Mais tu voulais savoir quoi? Bon, bah j'y arrive. Tu te souviens du matin où, en vie scolaire, tu n'arrêtais pas de parler des filles qui entendaient des bruits dans ton dortoir? Elles étaient convaincues qu'il s'agissait de fantômes. Et juste après, tu as parlé du Berry avec sa réputation de pays des sorciers. Alors voilà ma question. Est-ce que par hasard, les filles t'en auraient dit davantage? Par exemple, le type de bruit et l'endroit où ça se produit?
Ouais, je me souviens de cette nuit-là. Bah, d'ailleurs, on n'avait pas beaucoup dormi. Et les filles sont venues me voir même très tard et tout ça, le soir, elles étaient paniquées, hein. Enfin, même pas paniquées, elles étaient méga paniquées. Mais à part entendre des bruits, elles n'ont aperçu aucun fantôme. Il y a des gamines qui sursautent quand le veilleur de nuit vérifie les portes. Et puis, il y en a d'autres qui ouvrent des yeux comme des soucoupes dès qu'elles voient une ombre. Alors, pour moi, tu sais, les fantômes, c'est dans leur tête une fois par mois, si tu vois ce que je veux dire.
Oui, en même temps, ça revient tous les ans, moi, ces histoires de fantômes, hein. Il y a peut-être vraiment un truc, une présence chez vous. Peut-être le fantôme d'un vieux proviseur acariâtre qui cherche à se venger d'élèves, j'en sais rien.
Oui, bah tant qu'on n'aura pas de preuves, hein, moi je dis que c'est dans la tête que ça se passe.
Ouais, possible. Je veux bien te croire. Mais bon, l'absence de preuves, c'est pas forcément une preuve d'absence, hein.
Oh là là, Fred, on philosophe sur les esprits maintenant?
Non, j'essaye juste de comprendre ce qui se passe ici. Enfin bon, on va pas s'éterniser sur le sujet de toute façon.
Rassure-toi, s'il y a vraiment des fantômes, même méga pervers, aucun ne s'est attaqué aux filles. Alors tu peux dire à tes mecs que nos fantômes sont méga inoffensifs, car j'imagine que ce sont les mêmes qui passent d'un bâtiment à l'autre, hein, ils vont pas s'arrêter par une porte.
Bon allez, je valide ta réponse, je vais leur dire ça. T'es vraiment compétente en dortoir fantôme, toi.
Mieux, t'es méga compétente. Ah, au fait, attends, une dernière question avant que je te quitte.
Ouais, vas-y, je t'écoute.
T'aurais jamais entendu des gros bruits au dortoir, des gros bruits sourds, comme si quelqu'un laissait tomber un gros sac de patates?
Non, j'ai jamais entendu de patates tomber. Mais sinon, tu m'appelles d'où, là?
Bah, je suis entre chez moi et le lycée, sur un petit chemin que je déneige chaque jour un peu plus depuis hier matin. C'est mon destin. Bon, allez, je t'ennuie pas plus, Gladys. En tout cas, merci pour tout, c'est sympa. Et là, j'ai le devoir qui m'appelle. Je fais des gros bisous.
Ah, bisous, mon Fred, à bientôt. Et bon courage pour cette semaine.
Si cette chasse aux fantômes ne m'enthousiasmait pas plus que cela, c'était malgré tout le seul moyen de rassurer les internes sur la sécurité du dortoir.
il fallait leur confirmer impérativement l'absence d'entités paranormales prêtes à envahir le lycée Jean Moulin. Et si des zombies avaient décidé d'investir les lieux, de toute façon, je doute qu'un dortoir de 8 individus eût présenté leur plus glorieuse conquête. Il faisait déjà nuit. Le vent avait repris du service et de nouveaux et très gros flocons apparurent après une journée pourtant calme. En arrivant au bâtiment d'internat, derrière les baies vitrées du foyer, je remarquai quelques élèves s'agiter sur le baby-foot dans une partie déchaînée. Puis, la douce chaleur du foyer se fit sentir à peine la porte d'entrée ouverte. « Salut les gars !»«
Oh, salut Fred !»
répondirent-ils tous en cœur. « Tous en cœur. » « Eh bien, vous ne vous ennuyez pas, ça fait plaisir à voir. Désolé de vous déranger pendant votre partie, mais il est passé où, Guilhem ?» Étienne, vautré dans un fauteuil à regarder sans conviction une émission de télé-réalité, expliqua. « Oh, il est parti au pôle, il revient tout à l'heure. » « Mais je croyais que le pôle était fermé pour la semaine. »«
Ouais, pour les entraînements, mais il est parti récupérer des papiers et des cours qui lui manquent. Il a toujours la tête en l'air, lui. »
Samy interrompit sa partie de baby-foot pour se rassurer sur l'organisation de la soirée.
« Fred, t'avais dit que t'arriverais plus tôt pour qu'on aille au dortoir des filles chasser les fantômes. C'est toujours bon, hein, on y va, hein ?»«
Oh non, les mecs, je suis trop crevé, j'ai annulé là. » Ses deux camarades stoppèrent aussi leur tournoi. Tous les trois me regardèrent, déçus. Jimmy tapa du pied.
« Pourquoi t'as annulé? T'avais promis !»«
Mais non, les mecs, je plaisante. Oh, de toute façon, la visite sera rapide, y a rien à voir. » Trois soupirs de soulagement envahirent le foyer qui résonna comme un monastère vacant. Bon, je vous laisse un moment. Je monte déposer mon sac et voir si Kevin est toujours vivant.
Ouais, je crois que Kevin va mieux, lança Étienne.
Merci pour l'info, mon petit Étienne. Je vais quand même lui demander s'il a besoin de quelque chose.
Guilhem, il a passé toute la journée au pieu.
Il a pas dormi?
Bah, quand Kevin dormait, Guilhem restait à côté, lisait les bouquins. Sinon, ils discutaient tous les deux. Mais alors des fois, j'allais voir ce qu'ils racontaient, ils changeaient de conversation à chaque fois que j'arrivais, alors j'ai pas insisté. Je sais qu'ils sont bien copains, tous les deux, on dirait un vieux couple. Mais bon, ça me dérange pas, je m'en fiche, moi je sais m'occuper.
Bon, écoute, couple ou pas, de toute façon, c'est surtout la nuit qui m'inquiète pour Kevin. Bon, les mecs, je reviens, tout de suite. Après être monté à l'étage pour déposer mon sac, j'effectuais une petite vérification d'usage dans les chambres des garçons, pour m'assurer qu'ils ne profitaient pas des journées pour installer le chantier. Puis je terminais par la visite de Kevin. La tête émergée du duvet, les yeux à demi ouverts, je n'eus pas besoin de solliciter son attention. Il semblait même heureux de m'accueillir, à en juger par son léger sourire. « Salut le grand malade. Comment tu te sens aujourd'hui, Kevin ?»«
Ouais, mieux qu'hier. Je suis un peu vaseux, puis j'ai la gorge qui gratte, mais bon, ça va. J'ai connu pire, je crois. »«
Et ta fièvre, comment elle va ?»
Oh, je crois que c'est bien redescendu, mais le mal de crâne me lance sans prévenir, c'est pas rigolo.
Et tes médocs, tu les prends bien sinon?
Ouais, mais j'en ai marre de rester au pieu, je sors que pour aller pisser, car la tête tourne dès que je suis debout.
Bon, écoute, c'est pas méchant. Quand le virus sentira que tu vas mieux, il essaiera peut-être de fournir un dernier effort pour t'enquiquiner avant de rendre l'âme.
Ah, et il fera quoi pour m'embêter?
Bah, ça peut se traduire par un dernier, mais un très bref accès de coup de fièvre. Tu peux aussi aller mieux sans nouvelle fièvre, hein, si le virus est d'une espèce gentille.
Ah, bon, d'accord, ouais, bah, je préfère ça.
Bon, écoute, Kevin, je te laisse. Avec les gars, on va se balader dans le dortoir des filles. Ils veulent s'assurer qu'on n'est pas envahi de fantômes. Imagine le truc. Ils ont entendu plusieurs bruits bizarres la nuit dernière et ça leur a fait peur. Toi, t'as rien entendu?
Si, j'ai entendu un truc.
Ah? Et t'as entendu quoi? Sylvain pensait même que ça venait de ta chambre.
Bah, j'ai entendu le vent.
Oh, t'es con. C'est bien ce qui me semblait.
Et tous les gars, ils vont avec toi?
Oui, tout sauf Guilhem, il est parti au pôle, je crois, chercher des trucs. Bon, allez, Kevin, à tout à l'heure. Et laisse la fenêtre fermée pour l'instant, c'est pas le moment d'ajouter une couche à ton rhume, ok?
Ouais, à plus tard, ça marche.
Je procédais à un tour de routine dans chaque chambre. Puis je rejoignis mes aventuriers d'un soir afin de les organiser pour une chasse dans l'antre, parfumé et fleuri de la terreur. Je me plaçais entre le baby-foot et le salon pour choisir les candidats. « Ça y est les gars, je suis disponible pour la quête en fantôme, alors qui est avec moi ?» Les inséparables se présentèrent, droits comme des soldats dans leurs bottes. Jimmy, Samy, Quentin. Parfait, le trio de choc. Étienne et Sylvain, vous vous joignez à notre équipe de choc ?
Affirmatif, lança Sylvain, qui derrière le comptoir sirotait en silence un chocolat chaud.
Étienne manifesta aussi son intérêt pour cette chasse paranormale, après avoir éteint la télé.
Ouais, je m'ennuie un peu, alors je reviens. Je vais leur botter le cul, moi, ces fantômes.
Pour rehausser le caractère dramatique de l'expédition, je décidai de lui donner un côté solennel au travers de consignes aussi arbitraires que ridicules, mais je savais qu'au moins trois y accorderaient de l'importance. Bon, écoutez-moi. Chasser un fantôme, ça paraît très amusant comme ça, surtout vu à la télé. Et surtout quand on a vu Ghostbusters. Mais s'ils sont vraiment à l'origine des bruits de la nuit dernière, il faut savoir comment réagir si on en rencontre un. Jimmy pose une question technique. Mais comment on saura que c'est un fantôme si on en voit un ?
Ah, excellente question, Jimmy.
Comme il n'y a que nous ici, si ce n'est ni un interne, ni le proviseur, ni moi, bah c'est forcément un fantôme.
Ah oui, on lui dira quoi ?
Alors qu'Étienne et Sylvain souriaient doucement derrière leur barbichette naissante, les camarades de chambrée de Jimmy, pris d'affolement, devinrent plus volubiles.
Ouais, bah pas question que j'aille parler à un fantôme ! Lança Quentin, effrayé. Toi, Jimmy, t'iras ! Mais ça va pas, non ? J'ai pas envie que ça m'attaque ! C'est Samy qui ira ! Il a le bagou facile, il saura les embrouiller, hein, Samy ? Quoi ? Mais ça va pas, non ! Si on en voit, on ira tous les trois ensemble ! Et
la ferme, les gars ! Oh, oh, c'est bon, calmez-vous ! Je peux continuer maintenant ? J'ai eu Gladys au téléphone tout à l'heure. La pionne ?
Oui, la pionne. Et arrête de crier, Jimmy.
Elle m'a confirmé que les fantômes de leur dortoir sont inoffensifs.
Quoi qu'il en soit, si jamais vous en voyez un...
Oh, c'est quoi ça ? Le crépitement des tubes néons suspendit la conversation. 3 secondes plus tard, le foyer était dans le noir. Les éclairages des issues de secours prirent le relais pour nimber les lieux d'une timide aura verte à peine suffisante pour guider nos pas.
Les mecs, qui est-ce qui s'amuse avec la lumière, là ?
Étienne et les trois inséparables se défendirent illico.
Ben c'est pas nous, on était à côté de toi.
C'est toi, Sylvain ? J'étais en train de finir ma tasse, c'est bon, j'ai pas bougé.
Le bruit avait recommencé. Comme la nuit précédente. Comme la veille au soir. La même détonation, le même sac de patates. Cette fois-ci, tous les internes présents furent témoins. Nous tassâmes nos têtes entre les épaules, les sourcils froncés par nos visages crispés, comme pour nous protéger d'un ennemi invisible prêt à bondir depuis le plafond.
« Fred, je crois que c'est le même truc qu'hier, » chuchota Sylvain qui scrutait l'espace au-dessus de sa tête.
« Ouais, Sylvain, je te confirme. » Et si c'est vraiment les tuyaux de je ne sais quoi qui pètent, eh ben on va se les prendre en pleine gueule dans pas longtemps.
Jimmy exprima son inquiétude.
Fred, c'est ça qui a coupé la lumière ?
Non, je pense pas. On dirait plutôt une coupure générale à cause de la tempête. En tout cas, ce bruit, c'est pas le plancher qui s'affaisse, ça ressemble plutôt à quelque chose au-dessus de nous. Il y a quelque chose qui se passe soit dans le plafond lui-même... Et dans ce cas, le dortoir est en train de s'écrouler, soit c'est une partie de sumo dans le couloir du dortoir.
Bon les gars, gardez le silence, je veux comprendre ce que c'est. Tu restes avec nous, hein ?
Ok Fred, tu restes avec nous, implora Quentin.
Oui, t'inquiète pas, je reste avec vous, ne crains rien. Et arrête de penser aux fantômes du dortoir des filles, tu feras peur à tout le monde pour rien.
Chut, taisez-vous.
Jimmy, Samy et Quentin inspectaient du regard l'espace des tentes autour du baby-foot. Comme pour guetter une manifestation physique visible du phénomène. Sylvain et Étienne surveillaient de leur place tout le plafond. Attentifs au moindre indice susceptible de nous éclairer sur l'origine de ce boob, de ce boom qui n'avait plus rien d'un sac de patates, nos têtes regardaient tout en l'air. Sans même savoir si nous devions craindre ou attendre une réplique, ni pouvoir déterminer ce que nous cherchions. Si ce n'est une réponse. Chacun gérait sa tension comme il pouvait. Nos pupilles se dilatèrent mécaniquement pour pallier le manque de luminosité, mais l'obscurité autorisait peu de visibilité. Les trois plus jeunes se rapprochèrent de moi, protection officielle la plus sûre du moment. Les deux autres manifestèrent plus de curiosité et se déplacèrent en silence dans le foyer, les regards toujours portés vers le haut. 2 minutes s'écoulèrent, 2 longues minutes où il ne se passa rien.
Le vent glissait sur les parois vitrées dans un sifflement sinistre qui amplifiait l'atmosphère pesante. Sa virulence laissait présager une nuit au moins aussi tourmentée que la précédente. Quentin n'était vraiment, vraiment pas rassuré. Fred, tu crois que c'est parti ? Quentin poussa un cri aigu puis me dévisagea, les deux mains sur la bouche pour exprimer son regret de n'avoir pu se maîtriser. Ce que j'appelais encore quelques instants plus tôt un sac de patates manifesta une fois de plus son écrasante présence. Nous eûmes alors tous la certitude que pas plus la tuyauterie que les matériaux n'étaient à incriminer. Ce n'était pas le froid qui jouait avec nos nerfs. C'était autre chose. Peut-être une chose. Enfin, cette chose, est-ce qu'elle était vivante? On n'en savait rien. Mais en tout cas, elle se déplaçait avec lourdeur. Et elle était désormais à peu près au milieu du plafond, c'est-à-dire en plein centre du dortoir, du couloir du dortoir, juste au-dessus de nous. Sylvain, le plus rationnel du dortoir, frissonna. Fred, c'est au-dessus de moi, je crois. Je commence à flipper, là. Sylvain, ne reste pas au milieu de la pièce. Viens, reste près de moi. Et c'est pareil pour tous les autres. Je veux vous voir à côté de moi. La chose s'était déplacée d'une quinzaine de mètres, sans marcher. Sans glisser, comme ça, d'un coup, comme si elle sautait, ou peut-être volait, comment le savoir. Cette seconde détonation était différente, comme des ricochets rapprochés, mais elle restait confinée dans une même configuration, lourde, pesante, brutale. Chaque seconde qui passait marquait un peu plus du sceau de la peur le visage des internes, car personne ne savait à quoi nous faisions face. La seule chose que nous savions, c'est que ce n'était pas le vent, ce n'était pas les tuyaux, et que ça se déplaçait. Ce n'était pas explicable, et cet inexplicable nous perturbait. Oui, nous perturbait. Car je n'étais pas plus rassuré, je faisais juste semblant, c'était mon boulot. Je fis donc mine de contrôler la situation et chuchotai aux garçons. « Les gars, regardez-moi !» Ils arrêtèrent de scruter le plafond. « Même si on ne sait pas encore ce que c'est, il y a toujours une explication à tout, d'accord? Pour l'instant, on reste en bas, on écoute, on voit comment ça évolue, et ensuite, troisième fois. » D'un geste machinal, Jimmy et Quentin s'agrippèrent à mon bras comme à une bouée de sauvetage. La chose refit un saut pour se retrouver sur le côté opposé du plafond, et donc à l'extrémité du couloir du dortoir ainsi que nous le supposions, à moins qu'elle ne fût pas seule. Et que plusieurs choses se partageaient l'espace. Étienne et Sylvain n'étaient pas plus rassurés que les trois jeunes. Leur apparent sang-froid ne tenait qu'à leur plus grand âge. Merde, mais c'était quoi ce truc, lança Étienne. Je veux me barrer d'ici, moi. Et pour aller où, couillon? Lui répondit Sylvain, qui dut reconnaître qu'avant de sonder les mystères de l'espace, il y en avait au moins un autre à élucider ici-bas. « Moi, je suis sûr que cette chose, elle court plus vite que toi. T'as entendu, Sylvain? T'as entendu, Étienne, les bons qu'elle ça fait? C'est hallucinant, ce truc. » Je commençais à perdre patience. « Bon, les gars, je veux savoir ce qui se passe là-haut. Il y a forcément une explication, et vous verrez que ça sera très couillon. Vous ne bougez pas d'ici, je reviens immédiatement. Putain, c'est pas une bestiole qui est entrée dans ce foutu dortoir qui va me faire chier toute la semaine. » Quentin, qui se remettait en douceur de ses émotions, m'adressa un pouce en l'air. Les autres me virent partir sans mot dire, mais je les devinais peu réjouis à l'idée de se retrouver seul un instant. Je n'étais pas tranquille à l'idée d'une rencontre avec cette chose sauteuse, dans l'espoir que ce ne soit qu'un écureuil perdu. Mais Kevin était toujours là-haut. Je montais les marches deux par deux malgré l'obscurité dans la cage d'escalier, jusqu'à me retrouver face à cette porte coupe-feu minable dont le bruit de métal me stressait les tympans. Tant pis. J'y allais franco, quitte à réveiller Kevin. Je marquai une petite pause pour m'assurer que le boucan n'avait ni attiré l'intrus, ni suscité ma curiosité. Et sa curiosité. Tout semblait en ordre, aucun mouvement. Je me retrouvai dans le premier sas, derrière la porte magnétique, ouverte sur un battant. L'étroite fenêtre incrustée sur le second battant offrit une vue dégagée jusqu'au bout du couloir, au niveau du second sas. Mais les veilleuses ne parvenaient pas à éclairer l'endroit de façon suffisante. Aucune chose ne se manifesta, aucune ombre, aucun mouvement qui aurait pu trahir une présence étrangère. On se faisait peut-être peur pour rien. Le couloir paraissait dégagé. Soulagé, je baissai mon niveau d'alerte, puis jetai un rapide coup d'œil dans la chambre du malade. Il était toujours là, si enveloppé dans son duvet, comme un pied dans une chaussette, qu'aucune touffe de cheveux n'en sortait. Je fus sur le point de sortir de sa chambre, quand je remarquai que la haute mais irrégulière colline que formait son corps sous le duvet parut un instant comme se dégonfler. Je ne perçus pourtant aucun mouvement de la tête qui m'aurait fait croire à un changement de position dans le lit. Bon, il s'était peut-être retourné avant que je n'arrive. Je ne perdis pas de temps à essayer de lui parler pour m'assurer que tout allait bien. Je laissai la marmotte se reposer puis redescendis vers le foyer. Je leur avais demandé de ne pas bouger. Ils n'avaient pas bougé. Ils étaient pétrifiés, statufiés. Je les tranquillisais. Les gars, il n'y a rien là-haut à part Kevin qui pionce. Le bâtiment est vieux et craque de partout. On se fait des idées avec nos fantômes. Alors, on va arrêter de se faire peur et j'annule la visite du dortoir des filles.
Tu crois que c'est vraiment le bâtiment qui craque ? Demanda Jimmy.
Écoute, Jimmy, on n'a jamais entendu ce bruit. Il n'est apparu qu'avec le froid. Donc, c'est le bâtiment qui craque à cause du froid. C'est logique, non ?
Ouais, ben moi, j'en suis pas si certain, annonça Sylvain.
Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous regardâmes tous Sylvain s'éloigner de notre petit groupe pour se déplacer sous l'emplacement présumé de la dernière détonation, au fond du foyer. Nous étions silencieux, curieux. Qu'avait-il remarqué ?
Sylvain, tu peux me dire ce qui se passe, s'il te plaît ?
Gouverné par l'imprudent besoin d'obtenir une explication logique à tout ce vacarme, Sylvain scruta de nouveau le plafond, que l'absence de luminosité tendait à faire disparaître.
Ce truc, les gars, ce truc ou cette chose comme vous voulez. Putain les mecs, je l'entends respirer.
Comment ça Sylvain, tu l'entends respirer? C'est quoi ce bazar?
Les autres internes se regardèrent l'un l'autre, atterrés, puis se rapprochèrent un peu plus de moi. J'ai des bonnes oreilles, je vous assure que c'est pas un tuyau. Il y a un truc qui souffle et qui respire juste au-dessus de nous.
Fin de la lecture pour aujourd'hui. Ouais, je sais, ça fait mal de s'arrêter comme ça. Mais on reprend demain, pas de souci. Et dans quelques minutes, vous pourrez retrouver cette lecture en replay si vous le souhaitez, pour vous rattraper également avec les précédents si jamais vous avez un petit peu de retard. Bon, maintenant, je jette un coup d'œil sur vos messages. Alors déjà, j'ai fait un petit coucou tout à l'heure à Elodie. Merci Elodie, qui est une grande fan d'Exilium. Elodie qui est venue nous écouter ce soir, puis peut-être les autres soirs, hein, si jamais je t'ai loupé, excuse-moi. Marie-Madeleine, fidèle au poste. Salut Marie-Madeleine, ça me fait plaisir de, non pas de te voir, mais de te savoir présente ici. Valérie, Valérie super fidèle, vous pensez bien, vu qu'elle fait partie du paysage d'Exilium, elle avait pas intérêt de louper le truc. Et Mélanie, juste en dessous, sa fille qui me fait 3 bisous sur son smiley. Voilà, je t'en ai fait 3 autres également. Gaël, salut Gaël, c'est gentil de venir me voir également, je te fais un grand coucou ou un grand CC. Fabien, mon petit frère, qui me fait un grand CC, salut, grand CC aussi. Et Gaël, c'était cool, même si coupé par Arthur. Hein, c'est qui Arthur ? Ah, c'est le fantôme, enfin le fantôme ou le truc. Eh oui, je suis désolé, sinon je vous menais trop loin. Alors si un soir comme ça, peut-être qu'un soir on se fera un grand truc d'une heure, une heure et demie, je ne sais pas. On verra, enfin pour l'instant on s'arrête, mais vous inquiétez pas, jusqu'à demain ça va vite passer. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, et surtout, vous avez peut-être entendu le Premier ministre, le 11 mai, si on est tous sages, si on reste tous à la maison, et qu'on fait tout ça ensemble, le 11 mai, il y a de grandes chances que le déconfinement se passe bien. Donc on reste tous à la maison, on garde la pêche, on est curieux de tout. Et puis je vous embrasse tous, je vous fais de gros bisous, et je vous embrasse, et je vous dis à demain, 18h30, pour la suite et la fin de ce chapitre 5.